La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus le Christ, notre frère et notre sauveur. Soyez les bienvenus dans ce lieu ce matin pour ce culte particulier. Ils le sont tous en réalité. Mais ce matin, nous avons la joie d'accueillir plusieurs personnes qui rendent ce culte singulier. D'abord peut-être notre consœur qui vient avec les amis du musée de la Réforme de Genève. Nous sommes avec Anke Lotz, qui est pasteur, retraité aujourd'hui, mais je pense que quand on l'est un jour, on l'est un peu toujours. Et donc nous sommes très heureux de vous accueillir ici, madame, pour ce moment de culte important pour nous et pour parler ensemble de l'avenir avec cette association des amis du musée qui va revenir en novembre avec nous ici dans ce lieu. Merci d'être là et vous partagerez avec nous la louange. Merci. Nous avons aussi le plaisir et la joie, et peut-être plus encore, d'accueillir deux personnes qui ont choisi de rejoindre la communauté protestante en ce jour. Cela fait déjà assez longtemps qu'elles cheminent l'une et l'autre dans leur foi et elles ont eu le désir profond de rejoindre notre confession protestante et particulièrement le protestantisme libéral ici même à l'Oratoire du Louvre. Il s'agit de Christine et Julie. Soyez les bienvenus avec vos familles, avec vos amis qui sont ici. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce lieu pour ce moment si important, pour Julie et Christine, mais pour nous tous, parce que cela nous renvoie à nous-mêmes et à notre propre parcours. Merci d'être là. Ce matin, Agnès, malheureusement, n'est pas avec nous parce qu'elle est, pour une bonne raison, elle est à Saint-Eustache, elle est avec ceux qui fêtent les 100 ans des oratoriens à Saint-Eustache. Et donc, évidemment, elle est allée représenter notre communauté. Et donc, nous sommes en communion avec cette église qui a donc des éléments communs avec l'histoire de ce lieu ici à l'oratoire. Nous allons maintenant commencer ce culte. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent par le biais des réseaux Internet. Nous sommes ensemble en communion, que vous soyez loin ou proche, que vous ayez pu venir un autre jour ici ou que vous ne soyez jamais venu. Ça arrive parfois qu'on regarde le dimanche à l'Oratoire du Louvre, mais qu'on ne peut pas se rendre sur place. Vous êtes avec nous dans la communion. Nous nous réunissons dans le chant, ensemble, avec le premier répond des livrets qui sont insérés au début du psautier français. Je vous invite à vous lever. Voilà, la tenue du chant, vous savez maintenant que le chœur est avec nous. Merci beaucoup d'être là, le chœur avec son maître de chapelle Alexandre Korovitch. Et c'est Sarah Kim qui nous accueille ce matin avec l'orgue et qui donc accompagnera tout ce culte. Je vais inviter Anke à venir me rejoindre. Et nous louons le Seigneur avec le psaume 146.
Alléluia. Je veux louer le Seigneur. Je veux l'acclamer toute ma vie. Célébrer mon Dieu par mes chants tant que j'existerai. Ne comptez pas sur des gens influents. Ce ne sont que des êtres humains. Ils sont impuissants à sauver. Dès qu'ils rendent leur dernier souffle, dès qu'ils retournent à la terre, leurs projets périssent avec eux. Heureux celui, celle, qui a pour secours le Dieu de Jacob et qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer, avec tout ce qui s'y trouve. Il est l'éternel gardien de la vérité. Il rend justice aux opprimés, il donne du pain aux affamés. Le Seigneur libère ceux qui sont enchaînés. Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Le Seigneur remet debout ceux qui fléchissent. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège les réfugiés. Il soutient la veuve et l'orphelin. Mais il fait échouer les projets des méchants. Le Seigneur règnera toujours. De siècle en siècle, il est ton Dieu, Sion. Alléluia.
Je vous invite à prendre le psaume 92, les strophes 1, 2 et 4. Je vous invite à vous asseoir. Dans les Écritures, nous trouvons toutes sortes de jalons pour guider nos vies, pour y réfléchir, pour y penser autrement. Et dans l'Épître aux Galates, il est écrit « Vous avez été appelés à être libres ». Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie en une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous nous présentons devant le Seigneur tel que nous sommes, avec ce qui nous sépare de lui, mais aussi avec cette espérance toujours présente à nos cœurs qu'il n'est jamais loin pour nous remettre en chemin. Dietrich Bonhoeffer priait en ces termes : Seigneur, les hommes vont à toi dans leur misère et demandent du secours, du bonheur et du pain. Tous font ainsi, païens et chrétiens. Seigneur, des hommes vont à toi dans ta faiblesse, te trouvent pauvre et méprisé, méconnu et trahi. Et c'est ainsi que tu vas vers leur détresse. Seigneur, prends-moi par la main, que je puisse moi aussi aller comme toi, avec toi, vers mes frères. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la grâce renouvelée sur nos vies. L'Éternel Dieu vit en nous. Que son esprit nous anime. Sa force transforme notre faiblesse. Sa miséricorde nous relève de notre misère. Sa vérité confond nos mensonges. Sa liberté ouvre nos différentes prisons. C'est pourquoi le dernier mot à notre sujet ne sera pas le nôtre, mais le sien, celui de son pardon et de son amour. Et il nous redit ce matin, « Ma grâce te suffit ». Voilà, je vous invite à vous asseoir et je vais inviter Christine et Julie à me rejoindre pour l'une et l'autre confesser leur foi. Venez, venez. Voilà. Bien sûr. Venez entourés de vos parrains, marraines. Voilà. Alors, mettez-vous par ici, mesdames, s'il vous plaît. Voilà, messieurs, dames, par là. Très bien. On est obligé de se placer pour que vous nous voyiez là-bas, très loin. Voilà, nous avons ensemble cheminé, Christine et Julie, jusqu'à ce moment important qui nous réjouit ce matin et qui nous émeut beaucoup. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Parce qu'il y a très longtemps, j'ai fait le même chemin que vous. Et il me semble que pour nous tous, c'est un moment de conversion profonde. Alors parler de conversion quand on vient du christianisme et qu'on passe dans une autre confession, certains contestent. Mais il n'empêche, il y a un mouvement qui change beaucoup de choses. Il y a parfois un retournement complet de la façon de vivre, ce qui anime la foi. Alors aujourd'hui, nous allons vivre un moment exceptionnel avec vous deux et je vous remercie encore. Je vous laisse ensemble lire la prière que vous avez voulu prier tout de suite ensemble avant de confesser votre foi, parce que vous l'avez choisie comme chemin pour dire comment vous avez entrepris cette route particulière, comment vous avez fait et dans quel esprit.
Autant que je l'ai pu, autant que tu m'en as donné le pouvoir, je t'ai cherché.
J'ai désiré voir par l'intelligence ce que je croyais, j'ai beaucoup étudié et beaucoup peiné.
Devant toi est ma science, devant toi est mon ignorance.
Là où tu m'as ouvert, accueille-moi quand je veux entrer.
Là où tu m'as fermé, ouvre-moi quand je viens frapper.
Que ce soit de toi que je me souvienne, toi que je comprenne, toi que j'aime.
Augmente en moi ces trois dons.
Jusqu'à ce que tu m'aies réformé tout entier.
Voilà, merci beaucoup pour cette prière d'Augustin. Christine, tu veux confesser ta foi dans cette église aujourd'hui ?
Oui, je le veux.
Alors, je te laisse dire en conscience cette confession de foi qui est toujours, je le rappelle, une proposition de mots pour dire la foi, mais qui ne peut jamais résumer toute la foi que nous contenons les uns et les autres dans nos cœurs.
Je crois en Dieu, l'Éternel, dispensateur de toute grâce, qui a tant aimé le monde qu'il nous a fait don de son Fils Jésus, le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Sa parole m'accompagne et m'interpelle de tout temps. Elle est une force qui me pousse en avant, un soutien pour les moments de doute, un réconfort pour les temps difficiles. Je ne suis pas adepte du prêt-à-croire inconditionnel. Ma foi est questionnante, presque exigeante. Mes interrogations ont pu, en leur temps, perturber certains de mes accompagnateurs spirituels. J'ai cherché de l'aide pour orienter ma réflexion dans une pratique approfondie et libre d'une parole vivante, mais aussi ouverte au monde, à la société et à ses mutations incessantes. Parce que, selon Marc, j'aime mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute mon intelligence et de toute ma force. J'ai cherché où je pouvais tenter de concilier foi et raison, liberté et fidélité, héritage et construction. Dans ce parcours, j'ai toujours éprouvé la présence de l'Éternel à mes côtés. Et je crois que c'est son esprit qui a mis les bonnes personnes sur ma route, Marie-Hélène et Sylvia, les pasteurs James, Béatrice et Agnès, pour me conduire en ce lieu jusqu'à ce jour. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, je peux dire avec joie qu'ici, j'ai trouvé ma maison de foi.
Merci Christine. Julie, tu souhaites confesser ta foi dans cette église aujourd'hui ?
Oui, je le veux. Alors, je crois en Dieu, j'ai toujours cru en lui et j'espère toujours y croire. Je le crains, non pas au sens où j'ai peur de lui, mais au sens où je fais preuve de déférence à son égard. Je respecte ses commandements, car ils sont justes, et je ne redoute pas son jugement, car il est la source de toute justice. Je crois en Jésus. Il est pour moi un modèle à suivre dans sa bonté et son humilité permanente. C'est aussi un très grand ami sur lequel je peux toujours compter. Et enfin, je crois que de la même façon que Moïse a toujours été juif, même si au départ il ne le savait pas, moi j'ai toujours été protestante et c'est pourquoi je rends grâce d'être ici avec vous tous aujourd'hui.
Merci Julie. Je vous invite à vous lever en signe de témoignage. Pour recevoir ces deux personnes dans cette communauté, même si vous les connaissez déjà, vous les avez déjà vues de nombreuses fois ici au culte, sans doute, mais aujourd'hui, elles ont fait le pas de dire que c'est leur maison de foi. Donc, bienvenue à vous. Je vous invite à leur dire aussi bienvenue. Alors, nous allons chanter ensemble le cantique 202, les strophes 1 et 2 dans les louanges et prières. Ce matin, j'ai choisi pour ce moment si particulier, en discussion avec Julie et avec Christine, ces deux textes qui peuvent sembler étranges par rapport au titre de ma prédication, si vous l'avez vu sur la newsletter. Et pourtant, dans le livre de Zacharie, au chapitre 9, le verset 9, « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Et dans le psaume 118, j'ai choisi ces versets, « Ouvrez-moi les portes de la justice. Par elles, j'entrerai, je célébrerai le Seigneur. Voici la porte du Seigneur. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te célébrerai parce que tu m'as répondu, parce que tu as été pour moi le salut. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est une chose étonnante à nos yeux. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit notre allégresse et notre joie. S'il te plaît, Seigneur, accorde le salut. S'il te plaît, Seigneur, accorde la victoire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Depuis la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Le Seigneur est Dieu, il nous éclaire, attaché des branchages au cortège de fête jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te célébrerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Célébrez le Seigneur car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. » Et je vous invite à chanter ensemble le psaume 72, les strophes 1 et 4. Prions ensemble. Éternel, bénis notre lecture et notre écoute. Bénis notre esprit au moment où les témoignages anciens viennent nous retrouver ici aujourd'hui. Permets que la foi de ceux qui nous ont précédés ne nous soit pas étrangère et que nous puissions dans la même communion te louer. Nous te demandons, Seigneur, ta lumière. Amen. Nous sommes nombreux ici et sans doute parmi ceux qui nous regardent ce matin à avoir un jour poussé la porte d'une nouvelle église, d'une nouvelle communauté, souvent parce que nous ne nous sentions plus intégrés dans notre église ou dans notre religion précédente. Ce matin, nous accueillons dans notre communauté et plus largement dans le protestantisme deux personnes qui font ce chemin. Elles ont chacune une histoire singulière et pourtant sont ici ce matin avec le sentiment d'être dans leur maison spirituelle, nous l'avons entendu, dans un lieu qui correspond à leur foi et à l'expression qu'elles veulent en donner. Nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui nous contactent régulièrement, nous autres pasteurs, pour franchir ce pas d'une conversion, d'une appartenance nouvelle. Parfois, ces personnes viennent d'autres religions, parfois, elles n'ont pas eu de culture religieuse du tout dans leur famille. Et parfois, elles ont vécu dans d'autres confessions chrétiennes, souvent le catholicisme. Il s'agit pour toutes ces personnes du passage d'un état de vie à un autre. Malheureusement, il s'agit souvent d'un changement qui vient à la suite d'événements négatifs, souvent des moments cruciaux dans la vie de chacun, des ruptures, parfois des deuils, et qui tout à coup mettent la lumière sur l'essentiel. Et parfois, il s'agit d'événements négatifs qui sont en fait des expériences de refus. Elles sont dans les communautés d'où elles viennent, non conformes en quelque sorte. Les religions ont en effet cette fâcheuse tendance à fonctionner avec des normes et par conséquent des refus. Et le protestantisme n'en est absolument pas exempt. Difficile en effet d'être conforme à tous les dogmes et à toutes les règles que les diverses communautés religieuses se donnent. Sans doute cette pratique des religions de donner des critères de plus en plus contraignants à mesure que les libertés individuelles augmentent dans un pays vise-t-elle à permettre, disent-elles, la sanctification des fidèles, mais souvent il s'agit de conserver la tradition par peur que tout change. Et on a parfois l'impression que plus la société se modernise, plus les critères de conformité religieuse deviennent exigeants. Alors commence la longue liste des témoignages de refus que nous recevons, d'excommunication et autres rejets qui touchent celles et ceux qui pourtant croient en un Dieu d'amour. Ça ne veut pas dire que c'est partout de la même façon, mais ceux que nous rencontrons malheureusement sont souvent l'objet de ces refus. Autant de traumatismes qui peuvent se confier dans le bureau du pasteur libéral, lui qui peut tout entendre sans jugement. Des personnes divorcées qui cherchent une bénédiction sur leur deuxième mariage et qui, devant un amour exceptionnel, se voient refuser. Des parents qui racontent un refus de rite d'enterrement sous prétexte que le petit n'était pas encore baptisé. Des filles ou des fils qui se voient refuser une communion avec leurs parents mourants à l'hôpital sous prétexte que les accompagnateurs sont valides et doivent aller communier à l'église comme tout le monde. Des couples de même sexe qui se voient refuser une bénédiction sur leur mariage. Des couples de religions différentes qui ne trouvent aucun lieu pour bénir leur union parce que chaque religion attend que le conjoint de l'autre religion se convertisse pour l'accepter en son sein. Alors nous sommes parfois la seule maison à les accueillir,
alors qu'ils ne sont ni l'un ni l'autre protestants, mais parfois le deviennent. Et pour parler des choses les plus sombres, l'ostracisme jeté sur les personnes s'étant donné la mort, laissant leurs survivants dans un sentiment d'abandon et d'injustice impardonnable. Vous devez penser, ce n'est plus possible à notre époque, eh bien si. Le souvenir de tous ces témoignages montre à quel point les systèmes religieux sont normatifs et peu inclusifs, parce qu'ils partent de la norme au lieu de partir des personnes elles-mêmes, de leur vie, de leur désir de rejoindre Dieu et d'être acceptés et aimés par lui. Et même si la comparaison entre une question éthique et une question esthétique ne suffira pas à expliquer ce phénomène de rejet pour toutes ces personnes qui, après un refus, ont fait le choix de rejoindre une communauté avec laquelle elles pouvaient être en accord, selon leur histoire, sans avoir à renier leur vie, tous ces cas me font penser à ce fameux salon des refusés, et c'est pour cela que j'en ai parlé dans le titre de ma prédication, ce salon des refusés de 1863. Pour rappel, on appelait le salon la manifestation artistique qui a eu lieu à Paris de la fin du XVIIe jusqu'à 1880. Ce salon exposait uniquement les œuvres des artistes agréés originellement par l'Académie royale de peinture, de sculpture, créée par Mazarin, puis après par l'Académie des beaux-arts. Bien des œuvres proposées au salon étaient refusées parce qu'elles n'étaient pas conformes aux critères que les beaux-arts s'étaient donnés, des beaux-arts académiques. Les protestations contre ces refus montaient évidemment depuis plusieurs années, quand en 1863, Napoléon III ordonna, pas tellement par libéralisme sans doute, mais parce qu'il voulait la paix, ordonna que devant le nombre astronomique des œuvres refusées, on fit un salon des refusés. On institutionnalisait donc le fait qu'il y ait des refusés, qui aient ce statut. Il faut dire que sur 5000 tableaux, 3000 étaient refusés, vous imaginez? Et parmi les œuvres bannies, le Déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet, à propos duquel un critique de l'époque écrit « Au milieu d'un bois ombreux, une demoiselle privée de tout vêtement cause avec des étudiants en béret. » Eh oui, Monsieur Manet, un élève de Goya et Baudelaire, il a déjà conquis la répulsion du bourgeois, c'est un grand pas. Voilà ce qu'écrivait le critique dans le Figaro du 24 mai 1863. Mais que serait aujourd'hui notre vision des arts, notre culture, notre façon de voir les choses, de les regarder, de les penser, si les refusés n'avaient trouvé nulle part où exister comme artistes dignes d'être accueillis pour leurs œuvres, si tous ces tableaux alors refusés n'avaient jamais été vus par nous tous, s'ils ne faisaient pas partie de notre culture à nous tous, notre société serait-elle la même sans ces œuvres singulières, bravant les codes admis et évoquant une vérité profonde sur l'existence humaine et ses aspirations? Quelle sclérose des consciences se trouvait ainsi évitée grâce à ce salon où enfin on pouvait voir des œuvres qui étaient sur le seuil d'une nouvelle ère, qui annonçait une nouvelle esthétique? Quel gaspillage épargné grâce à cette exposition? Pourtant, les railleries autour du salon ont l'air bon train quand même, et l'on voit combien dans cette polémique ce qui est singulier est fragile. Car souvent on ne comprend pas ce qui est en train de changer, ce qui annonce une nouvelle ère, un nouveau monde. Il est intéressant de noter que ce sont des railleries du même type qui attaquent les églises lorsqu'elles ne demandent pas à celles et ceux qu'elles accueillent de cocher des cases normatives et de s'y plier. En effet, elles sont alors taxées d'églises du bien-être par des institutions qui ne comprennent pas ce que accueillir veut dire. Cela ne veut pas dire changer les gens pour qu'ils nous ressemblent, cela veut dire les accueillir comme ils sont, comme si l'inclusivité pour eux n'était qu'une facilité ou une démagogie pour les églises qui la pratique. Pourtant, accueillir ceux que j'appelle les refusés de la norme religieuse implique de se savoir soi-même potentiellement refusé selon de nombreuses normes et de remettre constamment en question ce que nous construisons ensemble au nom de la foi. Car dans cette construction, il n'y a plus alors une seule façon de croire, identifiable et facile à définir par un contenu doctrinal. Il y a alors des confessions de foi singulières, comme celles que nous avons entendues ce matin, dans des vies singulières, qui viennent sans cesse reposer les questions théologiques qui ailleurs pourraient sembler réglées une fois pour toutes. C'est tout le défi de ce que la théologie libérale défend, à savoir le libre examen. En effet, c'est au nom de ce libre examen de sa foi, auquel chacun est invité, que la confession de foi naît dans une théologie libérale qu'une proposition humaine pour dire la foi en un Dieu irréductible à nos maux. La foi de l'Église n'existe donc pas en tant que telle, elle n'existe pas en elle-même. Et seule la foi de chacun qui constitue cette Église que nous ne connaissons pas, dont nous ne savons pas les contours, a un sens en théologie libérale. Est-ce plus facile ou plus difficile de faire communauté ensemble dans ces conditions, car chacun y va de sa façon de dire sa foi? Est-on en le faisant dans le bien-être ou non? Là n'est pas la question. Nous ne devons pas nous poser cette question qui est bien secondaire, car la question que nous devons nous poser quand nous nous retrouvons, la véritable question est au nom de quoi nous retrouvons-nous? Au nom de quoi formons-nous cette Église? Au nom de Jésus-Christ ou au nom de nos normes? Jésus aurait pu figurer dans la grande galerie des refusés, lui aussi. Tant sa façon de lire la loi et les prophètes prenait de liberté avec la façon académique de les comprendre. Il est la pierre que les bâtisseurs ont rejetée et qui est pourtant celle sur laquelle tout le christianisme s'est construit. Sa mort infamante nous rappelle jusqu'à quelle extrémité l'attachement à la norme peut mener et avec quelle violence les institutions, quand elles se vivent comme normatives, peuvent devenir violentes. Et nous en avons des exemples dans d'autres pays en ce moment d'une façon terrifiante. Cette pierre rejetée dont parlent les Écritures servira à Paul pour parler de l'intégration des non-juifs à son époque, au christianisme naissant. Dans la lettre aux Éphésiens, il écrit « Rappelez-vous donc ce que vous étiez autrefois. Vous n'êtes pas juifs de naissance. Les juifs vous traitent d'incirconcis alors qu'ils s'appellent circoncis en raison d'une opération pratiquée dans leur chair. Mais maintenant, par l'union de Jésus-Christ, vous qui étiez alors loin, vous avez été rapprochés par le Christ qui a versé son sang. Le Christ est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin et la paix pour ceux qui étaient proches. C'est en effet par le Christ que nous tous, ceux qui sont juifs et ceux qui ne le sont pas, nous avons libre accès auprès de Dieu, le Père, grâce au même Esprit Saint. » Vous retrouvez ce passage dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2. Le débat des refusés n'est donc pas nouveau. On le voit ici. Et c'est le propre d'une théologie universaliste, comme la théologie chrétienne, que de remettre sans cesse sur le métier ce travail d'accueil du nouveau venu, de celui qui s'approche avec son histoire, ses pratiques, sa façon de dire sa foi et les repères qu'il s'est déjà constitués avant d'arriver. Paul invoque la croix et le sang du Christ comme raison de l'inclusion des non-juifs dans la promesse de Moïse et des prophètes transmises par Jésus. Mais si cette fonction sacrificielle était bien comprise par les juifs et les non-juifs de son temps, elle est devenue pour nous difficile à accepter parce que bien difficile à comprendre de notre point de vue de femmes et d'hommes modernes. Rares sont les religions aujourd'hui dans notre espace culturel qui ont recours au sacrifice. Alors comment reconsidérer cette paix du Christ et quel serait le ciment qui pourrait faire tenir ensemble toutes ces confessions de foi individuelles dans le même christianisme? Je proposerai l'humilité du Christ, comme nous en avons parlé ensemble, Christine et Julie. Le Christ humilié, bien sûr, mais aussi le Christ qui se fait serviteur de tous. Et dans le contexte religieux où les églises se sont érigées en pouvoir spirituel prétendant longtemps dicter au pouvoir temporel ce qu'il devait faire, la question de l'arrogance des églises chrétiennes est centrale. Prétendre dire sur terre ce que Dieu veut et édicter les normes de la vie des peuples puis des individus comme si on détenait la vérité révèle d'un orgueil extraordinaire au bout du compte. C'est sur ce schéma que nos sociétés ont vécu et pour certaines d'entre elles vivent encore. Pourtant, c'est un roi humble et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse, insiste le rédacteur, qui devrait être la norme de notre comportement chrétien. C'est le service de tous qui devrait être notre souci premier. Avant de nous soucier de notre propre gloire. C'est notre pauvreté de cœur qui devrait nous inciter à l'amour du prochain et à son accueil sans jugement. Ce roi qu'on avait d'abord rejeté, ce Christ qu'on n'a pas voulu recevoir, cette pierre rejetée par les bâtisseurs, tous ces symboles qui nous sont offerts dans les Écritures, ne sont-ils pas une invitation à nous souvenir toujours qu'il nous faut nous laisser convertir par l'amour de Dieu, avant de prétendre pouvoir dire qui est du Christ et qui ne l'est pas. Il ne s'agit pas ici d'une humilité pieuse qui se complaît dans l'abaissement et qui du coup retrouve sa gloire autrement, mais bien d'un appel à la conversion constante, au semper reformanda de la réforme, qui ne se croit jamais close. Il s'agit de prendre conscience du creux en nous, dans lequel la grâce de Dieu peut trouver sa place, de cette brèche en nous qui peut recevoir l'amour inconditionnel de Dieu parce qu'il s'en sait à la fois indigne et pourtant toujours dépositaire. Que chacun se souvienne qu'il a fallu que quelqu'un, quelque part, l'accueille inconditionnellement au jour de sa naissance pour qu'il entre dans la société des humains. Et cet acte-là, parfois, est difficile pour certains. Que chacun se souvienne aussi qu'on ne naît pas protestant, pas plus qu'on ne naît chrétien, mais qu'on le devient chaque jour. Alors, avec Paul, nous pourrons dire à tous ceux qui se sentent refusés et qui cherchent un vis-à-vis pour les accueillir et les découvrir dans leur singularité, vous êtes maintenant citoyens à part entière avec ceux qui appartiennent à Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu, à sa maison. Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes et dont la pierre d'angle est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et qui l'a fait s'élever pour former un temple saint pour le Seigneur. Dans l'unité avec lui, vous faites partie, vous aussi, de la construction pour devenir avec tous les autres la demeure que Dieu habite par son esprit. Amen.
Thank you.
Je vous invite à chanter le psaume 25, les strophes 1, 2, 3 et 4 dans le psautier. Voilà, je vous invite à vous asseoir et c'est Aurore, notre présidente du conseil presbytéral, qui va partager les annonces avec nous. Je descends.
Bonjour à tous. J'allais dire merci à tous d'être si nombreux, mais je voulais d'abord dire merci à Christine et Julie d'avoir permis... À toi, Béatrice, de nous offrir une si belle prédication. J'ai vu beaucoup d'entre nous en pleurs.
Il y a du vécu, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de vécu, et pour moi-même aussi, c'était très, très important de pouvoir écrire ça pour vous aujourd'hui.
Vraiment, merci. Nous avons deux conférences qui se préparent dans la lignée de l'ouverture de l'oratoire. Une le 6 octobre, pour le centenaire de l'action chrétienne en Orient. 6 octobre au soir, nous aurons ici un pasteur libanais et un pasteur syrien qui nous offriront un regard croisé sur les crises du Proche-Orient. Nous célébrerons ce centenaire de l'action chrétienne en Orient avec le journal Réforme. Et parce que nous tenons à être diverses, donc ça c'est le 6 octobre, le 12 octobre, nous aurons parmi nous le théologien catholique, mis au banc de l'Église catholique il y a maintenant de nombreuses années, Eugène Druyerman, qui sera parmi nous sur son dernier ouvrage qui est passionnant sur comment apprendre aux jeunes aujourd'hui la chrétienté, ou comment leur partager le principe de la chrétienté, ou les principes, ou les valeurs, j'aime pas ce terme.
Oui, je ne sais pas comment on dit.
Voilà, tu fais pas mieux que moi. Et cette conférence du 12 octobre sera avec les éditions Cartala, qui sont aussi les éditions qu'ont publié en français le théologien que vous aimez beaucoup ici, eu égard au nombre de ventes que nous faisons à la librairie, qui est John Shelby Spong, qui est un théologien anglican, également mis au banc aux États-Unis, donc au bout d'un moment. Donc, Et les éditions Cartala et John Shelby Spong n'a jamais été cité par Réforme. Donc vous voyez, le 6 octobre, nous travaillons avec Réforme, le journal Réforme, sur l'action chrétienne en Orient. Et le 12 octobre, nous travaillons avec les éditions Cartala sur une conférence du théologien Eugène Druyerman. Tout à l'heure, Christine et Julie nous partagent un verre de l'amitié. Donc ça va se passer de ce côté-là. Donc nous sortons et Béatrice aussi sera là pour vous accueillir. Donc de l'autre côté. Alors aller de l'autre côté, ça permettra de, pour vous, si vous ne les avez pas encore vus, de prendre connaissance des deux dernières expositions que nous avons présentées aux Journées du Patrimoine. Et Julie insiste pour que je vous parle de l'exposition sur les vitraux. Donc pour une fois, c'est pas moi qui vous parle naturellement d'argent, c'est Julie qui insiste pour dire que ce projet est particulièrement lumineux, te tient particulièrement à cœur, Julie.
Non, mais c'est vous qui en savez plus que moi sur les vitraux, qu'on fait une campagne de restauration des vitraux, c'est ça ? Et qu'il faut faire des dons pour la restauration des vitraux.
Voilà, donc nous démarrons début octobre, nous avons eu trouvé des mécènes et certains d'entre vous nous ont permis aussi de démarrer début octobre. Il faut d'ores et déjà chercher 80 000 euros et 100 000 euros pour les phases d'après. Mais là, nous démarrons une phase à 50 000 euros. Nous l'avons nommé projet lumineux parce que c'est quand même extrêmement symbolique de remettre la lumière dans ce temple. Et en plus écologique, ça nous permettra de faire des économies d'électricité et d'éteindre les lustres. Et peut-être avoir un peu plus de chauffage en échange cet hiver. En allant là-bas, vous pourrez aussi voir le 160 rue de Rivoli. Donc le 160 rue de Rivoli, c'est exactement le bout de l'arcade qui est tout noir et qui est côté rue de Rivoli. Alors pourquoi je vous en parle ? Parce que la ville de Paris aimerait le rénover sans nous demander d'argent, donc c'est quand même à citer, mais pour qu'elle puisse faire passer ce projet d'1,5 million de rénovation des arcades du 160 rue de Rivoli, il vous faut voter pour dire que vous trouvez ce projet absolument formidable. Alors ce projet ne va absolument pas changer la vie des Parisiens, parce que le 160 rue de Rivoli de passer sous cette arcade ne va peut-être pas passionner grand monde, mais alors si...
Sauf si les pierres leur tombent sur la tête un jour, parce que ça commence à être très tangent quand même.
Mais je ne suis pas sûre qu'ils pensent à voter, donc je vous en prie, votez. Nous avons mis le lien sur la newsletter, si vous ne l'avez pas, demandez-le nous. Prenez 5 minutes pour voter en ligne et nous protéger l'entrée du côté 160 rue de Rivoli que nous allons utiliser tout à l'heure. Dernier point, la seule raison pour laquelle vous êtes invité à repartir par là en fin de culte et non par là pour partager un verre, c'est pour aller à la librairie. Vous savez que Vito, un de nos bénévoles, tient ce stand. Et nous venons de rentrer un livre qui nous tient vraiment à cœur, de Sylvain Vergara, Les chemins de l'aube. Sylvain Vergara fait partie de la famille Vergara, dont nous avons eu le pasteur ici, qui, je vous le rappelle, avec la communauté de l'oratoire et la communauté de la clairière, ont sauvé 63 enfants juifs. Nous célébrerons les 80 ans de ce sauvetage en février. Lisez ce livre, Les chemins de l'aube de Sylvain Vergara, qui est absolument fabuleux. Voilà, je vous remercie. C'est le temps de l'offrande. Donc l'offrande est pour l'église. Les dons pour les vitraux, c'est un chèque ou du cash ou ce que vous voulez, mais au nom de la fondation de l'oratoire. Ce n'est pas les mêmes comptes. Ici, c'est le temps de l'offrande et je te laisse en parler mieux que moi, Béatrice.
Oui, ben donnez simplement par reconnaissance pour ce que vous recevez dans votre foi. Je crois que c'est une bonne raison. Voilà. Voilà, nous allons entrer dans la liturgie de la scène et je rappelle à toutes et à tous ici présents que vous êtes toutes et tous invités à la scène sans aucune restriction. C'est le Seigneur qui vous invite. Nous louons le Seigneur et je vous invite à vous lever. Seigneur, notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige. Et il nous rend libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. C'est pourquoi, avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles, avec ton peuple assemblé ici et partout, nous célébrons ton nom et nous chantons. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Et pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude. » Pour le pardon des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Père invité à ta scène, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Et dans la confiance et dans la foi, nous te présentons notre monde. Nous te prions pour ceux et celles qui sont dans notre cœur et que nous portons, celles et ceux qui ont besoin de ton salut, celles et ceux qui se sentent refusés ou le sont réellement par des institutions violentes, là où ils vivent. Éternel, nous te remettons ce matin, alors que deux femmes ont rejoint notre communauté, toutes celles qui sont sans cesse stigmatisées et persécutées de par le monde, parce qu'elles sont des femmes et qu'elles représentent un enjeu pour nombre de sociétés violentes. te demandons ton soutien pour que jamais nous ne laissions de telles discriminations gagner du terrain là où nous sommes. Fais de nous des artisans de justice dans ce monde. Éternel, nous te remettons toutes celles et ceux qui poussent la porte d'une nouvelle communauté, quelle qu'elle soit, et qui cherchent un langage pour dire la foi qui est au fond d'eux. Permets que nous soyons de ceux qui accueillent. Permets que nous nous sentions accueillis par ceux qui nous rejoignent, parce que nous aussi, nous avons besoin sans cesse de ces nouveaux vis-à-vis pour nous réformer. Éternel, nous te présentons notre monde avec ses guerres, ses violences, ses désirs de puissance sur les autres. Permets que nous soyons de ceux qui annoncent la paix. Aide-nous à apprendre l'humilité pour renoncer à la violence. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Le pain que nous rompons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, merci pour ce temps que nous avons partagé ensemble, ce repas qui nous a redonné cette nourriture spirituelle pour nos vies. Nous te remettons nos vies, nos chemins. Amen. Frères et sœurs, nous avons partagé ce temps ensemble au nom du Christ. Nous avons partagé ce temps avec Christine et Julie ce matin au nom du Christ. Alors allez là où vous avez des choses à faire pour ce monde, au nom du Christ aussi. Qu'il soit votre guide et que vous puissiez changer, transformer le monde là où vous êtes. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur, de toute grâce, vous fait grâce et vous bénit. Amen. Voilà, bon dimanche à toutes et à tous. Surtout, venez nous retrouver pour le pot de l'amitié que proposent Christine et Julie. Et vous pourrez y rencontrer aussi les choristes d'aujourd'hui, les musiciens d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, venez et accueillons-nous les uns les autres. Merci.